texte. Si vous n'avez pas la Bible avec vous et que vous aimeriez suivre, surtout si vous n'êtes pas familier avec les Écritures, je vous encourage à le faire. On va tourner dans Ésaïe, on va tourner dans Romains et dans Apocalypse. Alors, si vous n'avez pas une Bible avec vous, juste levez la main. Les placeurs vont vous apporter une Bible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait besoin d'avoir les Écritures? Et on va la tourner pour vous dans le livre d'Ésaïe. Tournez avec nous dans Ésaïe 9. Ensuite, on va tourner ensemble dans Romains 1. Et puis, on va aller dans Apocalypse 22. Camille va nous conduire dans la lecture d'Ésaïe, chapitre 9. On va lire les versets 1 à 6. Ésaïe 9, 1 à 6. Écoutons la parole de Dieu.
Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes, pour être dévoré par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées.
Mon épouse va nous lire dans Romains, si vous voulez tourner avec nous, Romains chapitre 1. Nous allons lire les versets 1 à 5. Portez attention, s'il vous plaît, dans la lecture sur la relation avec le fils de David, la descendance de David, d'accord? Romains 1, 1 à 5.
Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Apocalypse 22, verset 12.
Alors Stéphane va nous faire la lecture. Apocalypse 22.
Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens !» Et que celui qui entend dise « Viens !» Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un en retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la sainte et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous.
Amen. C'était la parole de Dieu. Merci Stéphane, Camille, Esther. On va se courber ensemble dans un mot de prière. Père éternel, nous nous apprêtons à célébrer la venue d'un homme qui a transformé l'histoire de l'humanité. Cette semaine, des milliards de personnes sur la terre, des millions de personnes vont porter leur attention un instant, un jour, sur la venue d'un homme qui est né il y a 2000 ans, dans une petite ville, Bethléem. Père éternel, ma prière est toute simple ce matin. Je te demande de nous aider à voir la splendeur, la grandeur de ce Sauveur qui est venu. Aide-nous à saisir qui était cet enfant. Et dans ta grâce, viens ouvrir les yeux de notre cœur pour que nous saisissions le cadeau qu'il venait nous offrir. Et Seigneur, si quelques personnes parmi nous ce matin n'ont pas encore saisi qui était Jésus-Christ, fais-leur ce cadeau cette année, Seigneur. Ouvre les yeux de leur cœur afin qu'ils le voient apparaître dans toute sa beauté et qu'ils reçoivent et acceptent ce merveilleux don. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que je te prie, Père. Amen. Amen. Alors ce matin, on traverse trois passages. Et vous l'aurez remarqué, on va dans aucun texte qui décrit précisément la nativité. On ne s'en va pas dans les évangiles. Normalement, à la veille comme ça de Noël, on va dans les évangiles et puis on lit l'histoire de la nativité. J'avais à cœur cette année, et c'est ma prière au Seigneur, j'avais à cœur qu'on voit ensemble la grandeur et la beauté de Jésus-Christ. C'est ça ma prière à Dieu. J'ai dit, Père, accorde-moi la grâce de pouvoir exposer Jésus dans toute sa beauté. Et pour cela, on va traverser trois passages rapidement. Trois passages qui nous parlent tous les trois du fils de David. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans le texte ces allusions à la généalogie, à la descendance, à la postérité de David. Donc, trois passages qui nous parlent d'un même personnage. Un passage prophétique, Ésaïe, de l'Ancien Testament, qui annonçait la venue, un jour, la naissance un jour d'un homme qui serait l'accomplissement de ses promesses faites au roi David. La promesse avait été donnée à David que son trône serait éternel, que sa dynastie demeurerait à jamais. Et le texte d'Ésaïe 9 nous annonce qu'un jour viendrait un homme qui serait justement ce roi parfait et qui assurerait la postérité de David. Un autre passage dans Romains qui nous parle de son ministère, de son passage ici-bas, de ce qu'il a fait. Et enfin, un troisième texte, Apocalypse. Apocalypse juste avant Noël. Parce que ce passage-là nous parle encore du fils de David. Et nous parle cette fois-ci, encore une fois, d'une prophétie. C'est un texte prophétique qui nous annonce son retour. Le retour du fils de David. Trois passages qui nous parlent de sa grandeur et du cadeau merveilleux qu'il a fait. Trois passages pour nous préparer à la fête de Noël. Dans Ésaïe 9, il est mentionné une paix sans fin au trône de David. Dans Romains 1, l'apôtre Paul nous dit qu'il est le Fils de Dieu, que Jésus est le Fils de Dieu, mais il nous dit aussi qu'il est né de la postérité de David selon la chair. Dans Apocalypse 22, c'est Jésus lui-même qui parle dans ce cas-là et qui se présente comme le rejeton et la postérité de David. Ainsi, ces trois passages nous parlent d'un seul et même personnage, Jésus-Christ, l'héritier des promesses faites à David. Et ces passages nous parlent de sa grandeur et de sa gloire, entre autres par les titres extraordinaires qui sont assignés à cet homme, à Jésus-Christ. La semaine prochaine, on va fêter Noël. La semaine prochaine, il va y avoir des millions de personnes sur la terre, pour ne pas dire des milliards de personnes, qui à travers la semaine vont avoir au moins une pensée Nombre d'entre eux vont penser que c'est une fête simplement culturelle, de l'histoire ancienne. Comment est-ce que vous allez fêter Noël? Ou plutôt, qui allez-vous fêter à Noël? Avez-vous idée de la grandeur de cet enfant qui est venu il y a 2000 ans? Avez-vous une idée juste de sa splendeur et de sa beauté? Ce petit enfant qui avait été promis par les prophètes, il est aussi venu annoncer une bonne nouvelle aux hommes, offrir le salut aux hommes, et il est celui qui revient bientôt, selon ce que disent les Saintes Écritures. À l'époque d'Ésaïe, il y a 700 ans, d'accord, le premier passage qu'on a lu, c'est environ 700 ans avant la venue de Jésus. On retourne loin dans le temps. 700 ans avant sa venue, un texte prophétique, c'est pas toujours évident de comprendre les textes prophétiques. Lorsqu'on va lire des livres prophétiques dans l'Ancien Testament, il y a des aspects des fois qui semblent très clairs parce qu'il y a des références historiques, des rois qui sont mentionnés. Tu dis, OK, ça s'accomplit à ce moment-là. Et il y a souvent une autre dimension ou un autre aspect de la prophétie qui est beaucoup moins clair. Et donc, à l'époque d'Ésaïe, saisir vraiment comment tout ça allait s'opérer, que ça allait prendre encore 700 ans, c'était difficile à comprendre. Ce n'est qu'à la venue de Jésus-Christ. Et encore là, même dans les années qui ont suivi, lorsque les apôtres relisaient les Écritures et qu'ils avaient compris enfin que toutes les Écritures annonçaient la venue de ce Sauveur, ce n'est qu'avec la venue de Jésus-Christ qu'on a pu vraiment saisir ce qui se passait, ce qui était annoncé dans Ésaïe chapitre 9. Maintenant, nous vivons 2000 ans plus tard, après la venue de Jésus, et il nous est donné à nous la grâce de pouvoir comprendre des choses qui ne pouvaient pas être comprises avant que Jésus-Christ vienne. Regardez la grandeur de Jésus dans Ésaïe 9, au verset 5. Voici ce qui est écrit. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Henri Blocher, un grand théologien, écrit dans son livre intitulé « La doctrine du Christ », il dit qu'Ésaïe décrit ici cet enfant avec une dignité divine. Il y a des titres qui sont donnés ici à cet enfant à naître qui ne sont pas normaux. C'est difficile de les accoler à un être humain ordinaire. Et je trouve que c'est une belle expression de dire que Ésaïe est en train de décrire un enfant qui va venir, mais un enfant qui va avoir une dignité divine. À quel homme normal pourrait-on dire, par exemple, qu'on lui donne le titre d'admirable? Bon, en français, ça peut aller encore. Conseiller peut-être, mais Dieu puissant? Père éternel? Tout à l'heure, j'ai prié juste avant de commencer à prêcher. Je ne sais pas si vous vous rappelez qu'est-ce que j'ai dit. Comment je me suis adressé à Dieu? J'ai dit, Père éternel. Alors, à tous les grands connaissants des Saintes Écritures, j'aimerais que vous me disiez ce matin, à qui est-ce que je me suis adressé dans la Sainte Trinité? À qui je me suis adressé? À Dieu. On va le résumer comme ça, je pense. Et si j'avais dit Dieu puissant, est-ce que je me serais adressé à cet enfant qui est venu? À qui je me serais adressé? À Dieu. Une dignité divine. Ésaïe nous annonce qu'un enfant va naître, il ne sera pas normal. Parce que sans blasphémer, sans offenser Dieu dans toute sa sainteté et sa gloire, on va pouvoir lui accoler des titres comme Père éternel, Dieu puissant, une dignité divine. Voyez-vous, on pourrait donner le titre de père à des hommes d'une grande sagesse comme le roi Salomon ou pensons à Abraham qui est parfois présenté comme Père Abraham, un ancêtre important, Père Abraham, mais Père éternel. Il y a quelque chose d'anormal ici, qui nous annonce quelque chose qui nous dépasse, qui est plus grand que nature. Songez au mystère d'un fils qui est né, qu'on va appeler Père éternel, ou d'un enfant à naître, qu'on va appeler Dieu puissant. La fête de Noël, c'est la fête d'un enfant qui est né avec une dignité divine et qu'on appelle Dieu puissant. On est loin des guilis-guilis, là. Une petite pensée pour le petit Jésus le jour de Noël. Vous comprenez, lorsque les Juifs regardaient Jésus dans son ministère terrestre, qui faisait des miracles, qui ressuscitait des morts, qui s'adressait aux éléments de la nature, qui prenait autorité sur les éléments de la nature, quand ces Juifs voyaient Jésus faire ces choses-là, calmer la tempête, apaiser les tempêtes, les vents, les marées, ils se regardaient les uns les autres et disaient, mais qui est celui-ci à qui même le vent et la mer obéissent? Parce qu'il y avait quelque chose de divin qui émanait de lui. Il y avait quelque chose qui dépassait tout ce qu'on avait déjà lu d'extraordinaire dans la Bible. Les gens qui font des miracles dans l'Ancien Testament, il y en a plein. Des prophètes à qui Dieu a donné la foi pour faire un miracle dans une situation particulière. Dieu a fait des miracles par le biais de Moïse de manière extraordinaire, incroyable. Pourtant, Moïse n'est pas comparable à Jésus. Et ces gens-là qui connaissaient les Écritures le regardaient aller, miracle après miracle, autorité après autorité, autorité jusqu'à dire que tes péchés te sont pardonnés. Non pas je te pardonne ce que tu m'as fait, tes péchés te sont pardonnés. Et les Juifs se regardaient, troublés, certains offensés, scandalisés, et ils disaient, mais qui est celui-ci à qui le vent et la mer obéissent? Ce passage d'Ésaïe 9 nous donne un aperçu. Seulement un aperçu de la grandeur et de la gloire de Jésus-Christ. Entre autres par les titres incroyables qui lui sont donnés. Personne d'autre ne peut porter ces titres sans que ce soit un blasphème devant Dieu. Et Ésaïe nous dit que cet enfant a apporté la lumière dans nos ténèbres, qu'il est venu enlever le joug, le fardeau qui pesait sur nos épaules. Il est le prince de la paix qui vient apporter la paix dans nos cœurs, premièrement. Rapidement, tournons ensemble dans Romains maintenant. Romains 1. L'apôtre Paul nous parle de la grandeur de ce Jésus-Christ qui est le fils de David. Je vous relis rapidement les versets 1 à 5. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes. On vient de lire Ésaïe. Dans les Saintes Écritures, il concerne son fils né de la postérité de David selon la chair et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Paul nous dit premièrement qu'il est serviteur de Jésus-Christ. Déjà, il nous parle un peu de ce Jésus. Mais surtout, Paul nous dit qu'il a été mis à part pour annoncer l'Évangile, une bonne nouvelle. L'Évangile veut simplement dire bonne nouvelle, une bonne nouvelle de la part de Dieu. Paul a été mis à part pour annoncer une bonne nouvelle qui était déjà annoncée par les prophètes. On vient de voir, 700 ans plus tôt, une bonne nouvelle avait été annoncée. Un jour, un enfant naîtrait qui mériterait des titres incomparables et qui viendrait apporter la lumière dans nos ténèbres. Et Paul nous dit qu'il a été mis à part pour annoncer ce message, cette bonne nouvelle. Cet enfant serait de la descendance de David. Il apporterait la paix et libérerait ceux qui sont dans les ténèbres. Ésaïe avait promis que cet enfant viendrait, qu'il serait digne des plus grands titres qu'on puisse donner à un homme, mais plus qu'un homme même, Dieu puissant, Père éternel, une dignité divine. Et l'apôtre Paul ajoute ici. L'apôtre Paul nous dit ici que cet évangile concerne le Fils de Dieu. Alors d'une part, il nous dit que ce Jésus était bel et bien de la descendance de David, donc il était fils de David. C'est un être humain. C'est un être humain, descendant de David. Il est fils de David. Mais non seulement est-il fils de David, Paul nous dit que par sa résurrection, Dieu est venu mettre le sceau pour dire qu'il est aussi fils de Dieu. Fils de David, fils d'homme, fils de Dieu. À la fois homme, à la fois divin. Et c'est sa résurrection qui a été le sceau de Dieu pour confirmer cela. Fils de David et fils de Dieu. Alors, logiquement, Paul l'appelle enfin Jésus-Christ, notre Seigneur. Si vous vous retrouviez devant lui, celui qui mérite qu'on l'appelle admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, Fils de Dieu, vous diriez « Mon Seigneur ». Sans l'ombre d'un doute. Et il est venu pour annoncer l'Évangile, une bonne nouvelle pour les hommes. Il est venu apporter la lumière dans nos ténèbres. Et Paul nous dit que cette bonne nouvelle est pour tous les païens. Les païens, à l'époque, c'est simple, hein? C'est vous et moi. Tous ceux ici qui ne sont pas juifs sont des païens. Ce sont tous les gentils, selon les termes qu'on trouve dans le Nouveau Testament, ce sont tous les non-juifs. Si le judaïsme était en quelque sorte la foi des juifs, le christianisme est offert à tous les hommes de toute race, de toute nation, et les païens, c'est vous et moi. Paul parle de l'obéissance de la foi. Cette obéissance de la foi, c'est croire en Jésus-Christ. C'est fléchir volontairement le genou devant cet enfant qui est né et qui mérite tous ses titres. Et reconnaître avec un cœur ébloui, émerveillé, la grandeur de cet enfant qui est venu. Croire en cet enfant, en cet être merveilleux. Tournez avec moi maintenant dans l'Apocalypse. Pourquoi est-ce que je vous amène dans l'Apocalypse ce matin? Au lieu d'aller dans un texte de la Nativité, j'ai l'impression, lorsqu'on approche de Noël, qu'on voit Jésus comme ce petit enfant. Mais Jésus a accompli sa destinée. Il n'est plus ce petit enfant emmailloté. En fait, c'est ça le drame. C'est ça le drame, c'est que trop de gens autour de nous le voient encore comme ce petit enfant emmailloté. Mais il a accompli sa destinée. Et je trouve absolument extraordinaire que Dieu, dans sa souveraineté, dans sa révélation, dans les Saintes Écritures, ait décidé que les dernières paroles soient données à Jésus. C'est lui qui ferme le livre. C'est lui qui a le mot de la fin. Parce que c'est lui qui va avoir le mot de la fin. Apocalypse 22. Quand tu réalises la grandeur et la gloire de Jésus-Christ, tu ne veux plus simplement avoir une petite pensée pour Jésus. Tu veux avoir toutes tes pensées pour lui. Quand Dieu te révèle qui est vraiment Jésus-Christ, quand il ouvre ton esprit, et c'est vraiment un miracle. Si cette année à Noël, vous êtes dans l'adoration, c'est parce que Dieu vous a touché de son doigt. Parce que le cœur de l'homme est fermé à ces choses. Le cœur de l'homme est incapable d'ouvrir ses yeux pour voir la splendeur de Christ. Et si cette année, vous adorez Christ à Noël, vous faites comme les mages, vous agenouillez devant Christ, c'est parce que Dieu vous a touché de son doigt. Et quand Dieu ouvre les yeux de ton esprit, tu réalises alors que Noël n'est pas une fête culturelle, un héritage judéo-chrétien, mais la fête qui annonce la venue de l'homme le plus important dans toute l'histoire de l'humanité et plus qu'un simple homme, mais Dieu fait homme. Regardez les versets 12 et 13 dans Apocalypse 22. « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Le salaire, j'apporte le salaire. Je viens payer mes comptes. Ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » C'est Jésus qui parle ici. Si vous étiez très familier avec l'Ancien Testament, et que vous lisiez tout de suite ce passage sans connaître Jésus, vous diriez « c'est Dieu qui est en train de parler ici ». L'alpha et l'oméga, le début et la fin. Je suis ce qui contient toute chose. Ce sont des titres pour Dieu dans l'Ancien Testament. Pourtant, c'est Jésus qui parle ici et il dit qu'il revient bientôt et qu'il rendra à chacun selon ses œuvres, utilisant des titres divins. Je vous lis jusqu'au verset 17. On continue, 14 et suivant. « Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Et que celui qui entende dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. C'est Jésus qui parle ici. C'est Jésus de Nazareth. Voyez-vous, il y a ce personnage historique, cet homme comme vous et moi qui a vécu il y a 2000 ans, Jésus de Nazareth, qui est né d'une femme, qui a vécu parmi les hommes, qui parle à la fin et qui ferme la Bible. C'est lui qui a le dernier mot pour fermer les Saintes Écritures. C'est ce Jésus de Nazareth qui est né dans une étable, qui a un jour été arrêté puis confié à des soldats romains qui l'ont cloué sur un bois comme on faisait pour les criminels. C'est ce même Jésus qui était un petit enfant et qui se présente des années plus tard à l'apôtre Jean. C'est Jean qui a ses révélations et qui vient lui parler de son retour. Et il y a ici un message d'encouragement. De tous les textes qu'on a lus ce matin, c'est le passage qui nous aide le mieux à comprendre ce que Jésus est venu accomplir sur la terre, selon moi. Il y a ici un message d'encouragement pour les églises, un message pour nous encourager à se tenir prêts, à patienter. Et si les prophéties d'Ésaïe ont été accomplies 700 ans plus tard, sa parole est fidèle. Il revient bientôt. Il revient encore bientôt. Et il sera fidèle à sa parole. Et si Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, il tiendra parole, il revient bientôt. Il y a vraiment une parole d'encouragement ici. Ce petit enfant que nous allons fêter la semaine prochaine revient bientôt dans toute sa gloire et sa majesté. Amen. Dans toute sa beauté. Heureux ceux qui lavent leur robe pour se préparer à son retour. Et il y a un message pour tous les hommes. Dans ce passage-là, il est mentionné « Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie. » Oh, si vous connaissiez toutes les Écritures, vous penseriez tout de suite à la Genèse avec cet arbre qui nous permettait de vivre éternellement. Dieu nous a conçus pour l'éternité. Ça m'a tellement charmé, touché aussi d'entendre Gilles Vigneault cette année à la télé. Je vais faire référence à ça cet après-midi encore parce que ça m'a frappé. J'ai du respect pour cet homme-là, pour sa poésie, pour sa pensée, mais ça m'a touché de l'entendre dire qu'il était convaincu que nous étions éternels, que nous avons une âme. Oh, j'aimerais ça pouvoir lui amener Jésus. Je sais qu'il ne se rend pas jusque-là. Mais dans son fort intérieur, il a cette conscience que nous sommes éternels. Et Dieu parle ici de cet arbre de vie. Au verset 17, il parle de ceux qui ont soif, qui prennent de l'eau de la vie gratuitement. Les deux versets parlent de cette vie que Jésus-Christ est venu nous offrir. Il est venu nous offrir la vie éternelle. L'eau de la vie et le fruit de l'arbre de vie sont gratuits, tout à fait gratuits. Et tout homme qui a soif de vivre entièrement, tout homme qui a soif de vivre éternellement, tout homme et toute femme qui ont soif de vivre pleinement dès maintenant peuvent venir s'abreuver à cette eau de la vie, à cet arbre de la vie, dès maintenant. parce que c'est gratuit en Jésus-Christ. Le salut, la vie éternelle que Dieu offre, cette vie dans laquelle on peut entrer dès maintenant, n'est pas à vendre. Parce que Dieu s'est offert et l'offre gratuitement à tous. Que celui qui a soif vienne, dit Jésus. Et si depuis quelque temps, Dieu place dans votre cœur une soif de Dieu, si depuis quelque temps, vous avez à l'intérieur du cœur, vous ressentez une sécheresse, vous avez soif d'une vie qui ne s'explique pas, d'une paix, ça prendrait la main de Dieu qui vient vous toucher. Si vous ressentez cela, c'est déjà l'œuvre de l'Esprit de Dieu en vous. Parce que l'homme naturel est pécheur et ne cherche pas Dieu. L'homme naturel n'a rien à faire de cela. L'homme naturel traverse la période des fêtes comme une fête culturelle et n'est pas intéressé au message qu'il y a derrière cela. L'homme naturel vit pour le moment présent, essaie de tirer le meilleur parti de tous les plaisirs que la vie ici peut offrir et attend la mort. Point. Mais lorsque l'Esprit de Dieu commence à t'attirer vers Dieu, il y a une insatisfaction qui s'installe en toi. Il y a une soif qui commence à se produire en toi. Tu regardes ta vie, tu regardes ce qui se passe, tu regardes les virages que ta vie est en train de prendre, tu considères la brièveté de la vie, tu considères les choix que les gens autour de toi font, et tu dis, il y a plus que cela. Je suis insatisfait. J'aimerais toucher à quelqu'un qui viendrait me donner la paix, me donner la joie, me réconcilier avec la vie. Et déjà ça, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu qui t'attire à lui. L'homme naturel ne conçoit pas ces choses. Mais Jésus dit que celui qui a soif vienne. Jésus n'est pas encore revenu. Il est encore temps de venir et de s'abreuver. Que celui qui a soif vienne, dit Jésus. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie. Comment est-ce qu'on fait pour toucher à cette eau, pour être rassasié de Jésus-Christ? J'ai bu de cette eau-là. J'ai bu de cette eau-là qui m'a réconcilié avec moi-même, avec Dieu, avec l'univers, je peux vous dire. Et plusieurs personnes ici l'ont fait. Comment est-ce qu'on fait ça? Jésus nous dit au verset 14, « Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Pour manger du fruit de cet arbre, il faut laver sa robe. Heureux ceux qui lavent leur robe. » Ça, c'est l'Apocalypse, c'est plein d'images. T'es là, puis tu dis ça, mais c'est quoi cette affaire-là? Voyez-vous, ce vêtement-là représente ce que nous sommes, nos œuvres. Je vais vous mettre mal à l'aise un petit peu ce matin. C'est un peu comme si votre vêtement, c'était votre cœur. Imaginez un instant que tout ce qu'il y a dans votre cœur, tout ce qu'il y a eu dans votre cœur depuis votre naissance, était tout d'un coup sorti de votre cœur et ça devenait votre vêtement. Parce que voyez-vous, dans ce que Jésus décrit ici, il revient pour donner le salaire, la rétribution à chacun selon son œuvre. Et ses robes, ses vêtements représentent nos œuvres, toutes nos pensées, toutes nos paroles, toutes nos actions. Alors imaginez un instant qu'il n'y a plus rien de secret. Je veux dire, il aurait pu marquer « Vous êtes tout nu ». Complètement exposé tout ce qui est à l'intérieur de vous. Tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez dit. Et ça, c'est votre vêtement. Alors quelqu'un vient vers vous et dit « T'as un super beau collier. Ça, c'est quel mensonge celui-là? T'as des belles perles ici. » Vous voyez, vous allez être vêtu de vos bons coups, mais de tout ce qui vous fait honte aussi. Un beau bracelet, c'est l'ensemble de tes péchés que tu as fait. Ça, c'est toutes tes hypocrisies, c'est ça? Il n'y a plus de secret. Tu es exposé. C'est ton œuvre qui te revêt. Imaginez un instant qu'on se promènerait comme ça, exposé entièrement de tout ce qu'il y a dans notre cœur. Parce que c'est ainsi que Dieu nous regarde. Dieu ne regarde pas à ce qui frappe les yeux, Dieu regarde droit au cœur. C'est comme ça qu'il nous voit. Il nous voit revêtus de tout ce que nous sommes de plus secret. Et un jour, nous dit Jésus, c'est ainsi qu'on va se présenter devant Dieu. Bien honnêtement, j'aimerais qu'il y ait un moyen d'enlever une coupe de morceaux. J'aimerais pouvoir effacer certains aspects, que ça ne soit jamais exposé. J'aimerais que vous ne soyez pas là quand Dieu exposera mon cœur et mon histoire et toutes mes pensées et toutes mes actions. Oh, il y a des choses dont je suis pas mal fier. Mais il y en a tellement que je ne voudrais pas qu'ils soient étalés sur la place publique. Je ne voudrais pas être revêtu de tout ce qu'il y a dans mon cœur. J'aimerais pouvoir nettoyer cela, effacer cela. C'est possible. C'est possible de paraître devant Dieu avec une robe, avec un cœur, un vêtement lavé, purifié. Et c'est ça l'image qui est donnée ici. C'est possible de vous présenter un jour devant Dieu et dès à présent, et que Dieu dépose les regards sur vous en disant « Tout ce qui te fait honte, tout ce que tu ne voudrais pas qu'il soit exposé, on l'oublie, on l'efface. Je ne le vois plus. C'est disparu pour moi. Entièrement, complètement. » Dans le livre d'Apocalypse, cette image de la robe avait déjà été utilisée. Je vais vous lire le verset rapidement parce que ça nous aide à comprendre ce que Jésus est en train de faire ici lorsqu'il dit « Heureux ceux qui lavent leur robe ». C'est dans Apocalypse 7, 14. Vous pourrez aller le lire plus tard. Et voici ce qui est écrit. « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe. Ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. » Ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est la dernière image, le dernier titre que je voudrais vous donner pour décrire qui est Jésus-Christ ce matin. Jésus-Christ est admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, Fils de Dieu, Seigneur, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Mais il est aussi l'agneau qui a été offert en sacrifice sur cette croix pour le pardon de nos péchés. En mourant sur cette croix, Jésus a versé son sang, il a offert un sacrifice à Dieu et il a payé de son propre sang pour nos péchés, nos fautes, tout ce qui nous fait honte. Tout ce que nous ne voudrions pas qui soit exposé un jour devant Dieu et devant tous. C'est de là que vient cette image, heureux ceux qui lavent leur robe, qui lavent leur robe dans le sang de l'agneau. Et certaines personnes, lorsqu'elles entendent ça, sont scandalisées d'une image aussi dure. Pas du tide, là. C'est le sang de l'agneau. Mais croyez-vous honnêtement que nos mensonges, nos hypocrisies, nos traîtrises, nos égoïsmes, nos adultères, nos vols, ça se lave avec du Tide? Il a fallu que celui qu'on appelle admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, Jésus-Christ notre Seigneur, se fasse agneau, comme on sacrifiait des agneaux dans l'Ancien Testament, et qu'il soit livré aux hommes pour être torturé, puis pendu au bois, que son sang soit versé, afin que tous ceux qui croiraient en son sacrifice puissent être purifiés de tous leurs mensonges, de tous leurs égoïsmes, de toutes leurs hypocrisies, de tous leurs vols, de tous leurs adultères, de tout ce qui nous fait tellement, tellement, tellement honte, afin qu'un jour on puisse se présenter devant Dieu le cœur serein, le cœur en paix, lavé, et que tout ce qu'il y a dans mon cœur puisse sortir. Parce que tout ce qui me faisait honte a été purifié, lavé par le sang de Jésus-Christ. C'est ça, Noël. C'est ça, Noël, ce petit enfant qu'on va célébrer. C'est cet être fantastique qui est plus qu'un homme, qui est revêtu d'une dignité divine. Et le cadeau qu'il est venu nous offrir, ce n'est pas le dernier Xbox ou la dernière Wii. C'est un cadeau qui a une portée éternelle. C'est quelque chose qui apporte une joie et une paix qui nous réconcilie avec Dieu et avec nous-mêmes et avec l'éternité, qui nous prépare à entrer dans l'éternité. Et Jésus dit que celui qui a soif vienne et s'abreuve. Que celui qui veut être libéré, qui veut entrer dans cette vie entière, s'approche déjà comme ces mages et vienne adorer Jésus. Et si aujourd'hui, Dieu place cette soif dans ton cœur. Si aujourd'hui tu es torturé, travaillé par ces choses qui font honte dans ta vie, que tu ne voudrais pas qu'ils soient exposés, Dieu t'offre un cadeau pour Noël cette année. Il t'offre le pardon de Dieu. Et quand Dieu te pardonne, tu es réconcilié avec l'univers. Et tu entres dans une vie entière et nouvelle. Voici qui est l'enfant que nous venons adorer. On va prier ensemble. Au Père, si ce matin, Père éternel, Dieu puissant, admirable, conseiller, si dans ta grâce ce matin, Seigneur, tu as ouvert un peu plus nos yeux sur ta beauté, toi, le premier, le dernier, l'alpha et l'oméga. Et si ce matin, Seigneur, quelques-uns ont dit « Amen, je veux venir m'abreuver à cette eau. Je veux avancer comme un homme et une femme libre, réconcilié avec Dieu et avec moi-même, en paix malgré tout ce que j'ai pu faire. » Oh Seigneur, si tu as touché des cœurs ce matin, ton nom a été glorifié. Nous voulons t'adorer pendant cette fête de Noël. Que tu ne sois plus pour nous un petit enfant seulement, mais la destinée même de l'humanité, celui qui nous réconcilie avec Dieu, avec l'univers et avec nous-mêmes. Nous voulons t'adorer cette année à Noël, Seigneur. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons t'appeler Père éternel, Dieu puissant. Viens, Seigneur, et sois au cœur de nos réjouissances cette année. Et que nous entrions dans une nouvelle année avec plusieurs dans cette salle, dans cette assemblée parmi nos proches qui entrent non seulement dans une nouvelle année, mais dans une nouvelle vie parce qu'ils sont venus s'abreuver à l'eau de la vie. Sois béni, Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Dieu.